les jardinières.
Avant-dernier rendez-vous jardinage du samedi avant la pause estivale. Et comme ce n'est pas encore les vacances, eh bien il est là et en pleine forme. Bonjour Raphaël.
Ah, c'est pas encore aujourd'hui qu'on part en vacances. Non. Bonjour Mylène, bonjour tout le monde.
Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Tom le jardinier. Bonjour Tom.
Bonjour.
Tom le jardinier, vous êtes chroniqueur, blogueur, auteur du livre Un potager au naturel, paru chez Albin Michel. Et on peut aussi retrouver vos conseils sur le site tomlejardinier.com. Merci d'être avec nous ce matin.
On vous souhaite un bon réveil. Merci d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre week-end.
Les jardinières.
Nous entamons déjà le dernier week-end du mois de juin. Alors, entre les orages, on essaye quand même de passer du temps au jardin. Alors, Tom, c'est quoi le programme du jardinier ce week-end ?
On sort les palmes et le tuba.
On pourrait, hein ?
Plus sérieusement, il y a eu des dégâts de grêle. On en parlera probablement beaucoup plus après. On a eu des grosses intempéries. C'est peut-être aussi un peu le moment de faire un petit bilan de ce qui s'est fait au printemps, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et puis éventuellement replanter ce qui n'aurait pas repris. Dans les jardineries, il y a encore quelques plants de tomates, d'aubergines, de concombres, tout ce genre de légumes-là. S'il y a besoin de replanter parce que ça aurait péri ou ça aurait... on peut encore replanter. Puis on n'hésite pas à étaler les semis, étaler les plantations. Je parle par exemple des plantons de salade, des plantons de tout ce qu'il y a, courgettes, et puis aussi les semis de haricots, de carottes, etc. pour étaler le nombre de récoltes qu'on va pouvoir avoir. Parce que si on sème tout d'un coup, on récolte aussi tout d'un coup. Donc si on ne veut pas se retrouver avec des kilos et des kilos de haricots pour nourrir les visages des alentours tellement il y en aurait, eh ben, on étale un petit peu les semis pour pouvoir en profiter pendant toute la saison.
Merci beaucoup Tom. Les jardinières, vous le savez, c'est votre émission jardinage et vous avez la possibilité de poser vos questions à notre professionnel. C'est Tom le jardinier qui est avec nous ce matin jusqu'à 8h. On attend avec impatience vos questions, que ce soit par téléphone et en direct. Vous composez le 0 901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également nous contacter par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question que vous nous envoyez au 939 ou via le formulaire qui est disponible sur notre site sous l'onglet émission questions jardinière. Et là, vous pouvez même y joindre une photo.
Et on se retrouve dans quelques minutes. Tom nous donnera des conseils pour protéger notre jardin des éléments naturels, tels que le vent, les orages ou encore la grêle.
7h, 8h, les jardinières.
Lorsque les intempéries s'intensifient, les jardins se retrouvent sous la colère des éléments. Vent violent, grêle, pluie diluvienne, la tempête fait rage. Comment prévenir ces assauts? Comment panser les plaies? Alors Tom, il y a un dicton qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Alors pour commencer, on pourrait par exemple, je sais pas, soutenir les plantes en cas de fort vent. Alors comment on fait?
Eh bien, il y a les tuteurs qu'on peut mettre, on peut un petit peu arrimer les pots. Mais par exemple, le tuteur, on peut déjà rien que le fait de le placer correctement. On se dit, le tuteur, on le place toujours en face des vents dominants. Comme ça, il protège déjà le tronc de la plante. Donc, on a déjà des choses qu'on peut faire pour prévenir. Fixer les pots aussi, c'est tout bête, mais un pot sur son balcon, par exemple, ben il est... théoriquement interdit de le planter, enfin de l'arrimer en dehors du balcon. On l'arrime plutôt à l'intérieur du balcon. On s'imagine, il y a un voisin qui passe en dessous, un coup de vent et le
pot
sur la tête. Donc on essaye de prévenir tout ça. Et puis juste aussi un tout petit, des petites choses, on parle de pluie violente, on va aussi essayer de nettoyer les chéneaux. On va essayer de regarder s'il y a aussi les plaques d'égout qui sont éventuellement tout près de chez nous, s'il n'y a pas déjà un lit de feuilles mortes ou que sais-je, qui pourrait un petit peu créer des boucher ces choses-là pour les infiltrations d'eau.
Mais on l'a remarqué aussi cette semaine, le vent peut souffler très fort. On n'a pas forcément une envie de construire un mur pour protéger son jardin. On n'a pas tous un voisin maçon, ni même de mettre des cloisons. Est-ce que certaines plantes, Tom, pourraient remplacer ces constructions?
Alors oui, il y a les haies qui ont aussi un rôle de protection contre les vents. Ces haies, on peut les choisir très diversifiées. Pour aussi avoir des arbres un petit peu plus hauts, des arbres un petit peu plus bas, parce que tout ce genre de choses-là peut, un, apporter de la biodiversité dans vos jardins, et puis deux, une haie peut aussi créer des remparts contre le vent.
Les vents forts sont souvent les premiers signes d'un orage. Tom, est-ce que vous avez des conseils à mettre en place avant les orages ?
Là, avant les orages, comme je le disais avant, vérifier les chéneaux, vérifier les plaques et les bouches d'égout, mais aussi un orage, c'est aussi beaucoup d'eau. On ne le sait pas encore si on aura un été caniculaire ou pas, mais essayer peut-être d'avoir des récupérateurs d'eau, de vérifier que si ces récupérateurs d'eau sont pleins, eh ben, il y a une dérivation, pas que tout inonde si on a ça, je sais pas, dans une cave ou dans un endroit à l'intérieur de la maison, parce qu'on ne va pas se retrouver inutilement inondé. Donc peut-être créer des dérivations si tout est plein. Et puis, on va aussi vérifier que les protections ou genre de choses-là, si on a des protections sur nos tomates, soient bien fixées, peut-être rajouter des sardines, genre de choses-là, pour fixer les choses au sol, parce que l'orage avec un petit coup de vent, on peut avoir toutes nos protections qui filent chez le voisin, donc bien vérifier tout ça, et puis on devrait théoriquement être prêt pour l'orage.
Et puis, il y a encore un des pires cauchemars des jardiniers, celle qui ravage les végétaux, c'est la grêle. La grêle, on l'a vu d'ailleurs cette semaine, est carrément sans pitié. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour éviter les dégâts de grêle, Tom?
Alors moi, dans mes souvenirs, il y avait des hélicoptères qui passaient au-dessus des vignes pour protéger de la grêle. Alors on n'a peut-être pas tous ces moyens-là pour son
On n'a pas
propre
tous un
jardin.
hélicoptère dans le jardin, hein.
C'est un peu ça, mais je crois que contre la grêle, on ne peut pas la prévenir. On va malheureusement accepter si elle tombe. On agira, on verra un petit peu plus tard avec des solutions pour soigner son jardin. Mais il n'y a pas grand-chose à faire pour prévenir de la grêle.
Un filet peut-être?
Alors, les filets, oui, sont souvent utilisés dans les arboricultures fruitières, mais quand notre revenu dépend de ces cultures, un filet contre la grêle, ça peut faire, s'il est mal installé, l'effet contraire, puisque il peut créer une poche et puis casser en tombant, parce que tout ce qu'il peut y avoir dessous. Donc, vraiment, contre la grêle, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire quand on est simple jardinier amateur dans son jardin.
Merci Tom, on va se retrouver dans quelques minutes. Vous nous expliquerez comment le jardinier doit réparer justement les dommages causés par le vent, les pluies ou la grêle sur ses cultures et ses plantes d'ornement.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Tom le jardinier et nous parlons des dégâts naturels au jardin. La puissance des orages ou de la grêle en été fait souvent des dégâts au jardin. On ne pense pas toujours à protéger son jardin. Une fois les orages passés, on ne peut que se rendre compte des dommages. Tom, la première chose à faire après un fort orage, c'est quoi?
Et bon, on va inspecter le jardin. On fait un tour. On essaye d'éviter s'il y a eu trop de pluie et s'il a la terre, elle est submergée d'eau. On va éviter de marcher pour tasser la terre. On va plutôt essayer de faire des petits chemins avec des planches en bois pour répartir notre poids, pour éviter vraiment de tasser la terre. Puis ensuite, un orage, c'est aussi du vent, c'est de la pluie. Il peut y avoir des branches qui sont cassées. Donc s'il y a des branches cassées, on va refaire une plaie, une taille pour avoir une belle plaie, pour les arbres cicatriseront beaucoup mieux. Et puis, on va un petit peu regarder tout ce qui pourrait être cassé, tout ce qui pourrait être violenté par ces orages, et puis éventuellement remplacer ce qui pourrait être remplacé encore durant la saison.
Si
Mais vous.
excusez-moi, Raphaël, je me demandais si par exemple là, il y a les premiers fruits ou légumes qui tombent, on les laisse au sol?
Eh ben, moi je dis toujours, on attend un ou deux jours, parce que si on attend un ou deux jours, on peut la plante déjà, elle revoit déjà si elle arrive à repartir ou pas. Si ce qui est sec, ce qui est on peut le couper, tandis que ce n'est pas toujours le cas, donc ça peut résister certaines fois un petit peu une courbure à ce genre de choses-là.
Tom, vous l'aviez dit il y a quelques instants, hein, les blessures des orages aux végétaux comme les branches ou les tiges cassées sont aussi des portes d'entrée pour les maladies, un peu comme pour nous, les humains. Alors nous, on se mouche et puis des fois ça va mieux. Comment on soigne les plantes par contre?
Eh bien, pour les végétaux, je disais, on va faire des belles tailles. Et puis là, moi, si la taille sur un arbre fruitier, sur un arbre ornemental, elle est plus grosse qu'une pièce de 5 francs, on a tous en tête la taille de la pièce de 5 francs, moi, je vais appliquer une sorte d'onguent avec de l'argile. Cet onguent-là, eh ben, il va protéger des maladies quand elles arrivent sur l'arbre. Et puis, ce qui est au jardin, là, je fais une décoction de prêle qui est un antifongique. Et puis dans cette décoction prêle, je vais ajouter un petit peu d'argile pour un peu panser toutes ces blessures. Et puis c'est un bon antifongique plus pansement. Et ben on est bon, nos plantes devraient survivre.
Après des rafales de vent, les végétaux sont souvent couchés. Alors on fait quoi, Tom? On les laisse comme ça, on les redresse?
Là, c'est un petit peu compliqué à dire. Moi, j'essaye de les redresser, mais en étant très, très délicat. Puis peut-être des fois, en recreusant pour avoir une belle motte, pour pas infliger aux racines toujours ce va-et-vient. Parce que si on inflige aux racines, ben, on peut encore plus casser des choses qui ne le seraient pas. Donc, des fois, juste ressortir la plante pour la replanter, pour éviter d'avoir des végétaux dont les racines bougent tout le temps, parce qu'on voit la partie aérienne quand elle est abîmée, quand il y a une branche qui casse, mais les parties souterraines sont autant importantes pour la plante. Et puis là, peut-être rajouter un tuteur au moment de la plantation. Et puis voilà.
Tom, on l'a vu cette semaine, hein, après des forts orages, le sol est souvent lessivé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui redonner un peu vie?
Eh bien, si c'est des endroits où il y a régulièrement des flaques d'eau, où on a un petit lac, ou ce qu'on peut appeler, on a souvent ce genre de choses-là, peut-être des fois au potager, quand le sol est souvent à nu, eh bien là, c'est peut-être aussi le bon moment pour installer un drainage. Donc, on trouve dans les commerces des sortes de grands tuyaux en PVC dans lesquels il y a plein de trous. Et ces tuyaux, c'est normal qu'ils ont des trous. On dit, mais une canalisation, ça ne ressemblerait pas à ça. On va mettre les trous orientés vers le haut pour que l'excédent d'eau va aller dans ces tuyaux et puis puisse aller un petit peu plus loin, soit vers une bouche d'égout ou aller dans un champ voisin qui aurait plus de chances d'absorber une telle quantité d'eau. Et ces drainages font que vous aurez un petit peu moins d'eau. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que dans les flaques d'eau, on va prendre la bêche, un petit peu d'huile de coude, et puis on va aller essayer de créer des petites... comme un hérisson roulerait sur dans ces flaques d'eau, pour pouvoir créer des endroits où l'eau peut s'infiltrer, parce que souvent, ce qui manque, c'est juste une petite poche pour pouvoir d'air, pour pouvoir avoir cette infiltration d'eau. Puis on évite d'avoir des flaques dans son jardin comme ça.
Merci beaucoup Tom, et puis bien sûr une pensée toute particulière aux personnes touchées ces derniers jours par les intempéries. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des jardinières.
Les jardinières.
Ce matin, cet homme le jardinier, notre invité, chroniqueur, blogueur, auteur du livre Un potager au naturel, paru chez Albin Michel. Et on peut retrouver les conseils de Tom le jardinier sur www.tomlejardinier.com. Et Tom va bien sûr répondre à vos questions jardinage jusqu'à 8h.
Et ces questions, on les attend bien sûr, comme chaque samedi matin, avec impatience par téléphone. Déjà, tout simplement pour entendre votre jolie voix du samedi matin, vous composez le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous êtes en direct avec nous et vous posez directement votre question à Tom. Si vous êtes un peu plus timide, vous pouvez choisir l'option SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou par le formulaire avec la possibilité de joindre une photo. Là, ça se passe sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission, question aux jardinières.
Tom, en première partie d'émission, on a parlé des dégâts naturels. Et puis avant de répondre aux questions des auditeurs, auriez-vous un dernier conseil, mais surtout pour ces jours où les orages sont vraiment violents?
Alors, c'est pas exactement pour ces jours, mais c'est une réflexion un petit peu plus profonde à se poser. C'est un peu la perméabilité des sols. Regardez chez vous, dans votre rue, etc., pour voir si tous les sols commencent à être gentiment bétonnés. Et dans le plus en plus de villes, dans de plus en plus de villages, on réfléchit à bétonner ces sols pour que l'eau puisse s'infiltrer. Donc peut-être que si vous avez une place de parc qui est faite entièrement bétonnée, peut-être réfléchir à mettre du gravier à la place de ce béton, réfléchir aussi, pourquoi pas, mettre des pavés avec, vous savez, cette espèce de petit trou au milieu où c'est qu'il y a quelques petites herbettes qui poussent. Eh bien, tout ce genre de choses-là permet à l'eau de mieux s'infiltrer directement dans les sols. On évite aussi pas mal de ruissellement, etc. Donc, réfléchir à ces solutions-là peut permettre d'éviter... Alors, peut-être pas ce qui se passe actuellement dans tous les villages, dans certains villages, mais ça peut éviter quelques catastrophes.
Merci beaucoup, Tom. Je vous propose d'attaquer avec les premières questions que l'on a reçues. Et elle était au taquet ce matin, Isabelle, puisqu'elle nous a écrit quelques minutes par le formulaire sur notre site internet, quelques minutes avant le début de l'émission. Isabelle qui nous demande, qui nous dit qu'elle a des plants de tomates cerises qui ont bien poussé, mais il y a un champignon qui est dans ce pot. Elle demande est-ce que c'est nocif ou au contraire, est-ce que c'est bien qu'il soit là ? Et aussi également, quel est le nom de ce champignon ? Elle nous a bien sûr joint une photo, Tom, que vous avez sous les yeux.
Alors oui, j'ai la photo. Je ne suis pas du tout spécialiste en champignons. Déjà, je le dis comme ça d'entrée. Par contre, ça peut venir. Généralement, on voit qu'il y a un bac ou qu'il y a ces champignons. Enfin, c'est du terreau dans lequel poussent ces plantes tomates cerises. Donc généralement, dans ces terreaux, surtout s'ils sont pas d'excellente qualité, il peut y avoir des résidus de branches, il peut y avoir plein de choses comme ça, un peu d'écorce, et généralement, les champignons dans nos bacs de culture, dans nos pots, tout ça, peuvent venir de ces résidus de bois qui commencent à se décomposer avec l'humidité et le terreau qu'il y a là. Donc, ça pose aucun problème pour la plante, c'est même bien, parce qu'elle vit dans un milieu vivant. Par contre, comme dans beaucoup de choses, quand on doit les consommer, quand on ne sait pas exactement ce que c'est, eh ben on ne les consomme pas.
Elle va manger que ses tomates, Isabelle. Merci beaucoup, Tom. Raphaël, peut-être on va rappeler rapidement le numéro de téléphone. On aime bien avoir des gens en direct
chez les jardiniers. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. 0901 70 20 20. Vous nous appelez maintenant. Vous prenez votre téléphone. 0901 70 20 20 pour être en direct avec nous et poser votre question à Tom. Et sinon, vous avez le SMS jardin, un espace, votre question au 939 ou le formulaire qui se trouve sur notre site internet.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Aujourd'hui, c'est Tom le jardinier qui est avec nous. Et Raphaël, vous êtes avec une personne au téléphone.
Oui, alors au téléphone, elle n'est pas venue directement jusqu'à nous, bien sûr. Mais on accueille Vitaline qui a composé le 0901 70 20 20 ce matin. Bonjour Vitaline.
Bonjour.
Votre question pour Tom le jardinier ?
Alors, ma question est la suivante. J'ai planté il y a une année et demie un pied de rhubarbe. Il va bien, il progresse, il me fait des belles grandes fleurs de rhubarbe. Puis j'aimerais savoir si je dois les enlever, si je dois les casser, si je dois faire quelque chose en particulier.
Alors, bonjour. Oui, moi, j'ai tendance à enlever les fleurs de rhubarbe pour que le pied, il emmagasine un maximum d'énergie qu'il emmagasine plein de force pour pouvoir faire de nouvelles feuilles au printemps. Alors moi, j'ai tendance à enlever les fleurs. Et puis vous prenez un sécateur ou un couteau, et puis vous pouvez faire ça très facilement, et puis mettre tout ça au compost.
Super, ben je vous remercie.
Merci de votre appel, Vitaline. Une toute belle journée, un bon week-end.
Merci.
Au revoir.
Tom, je me demandais, là, j'ai vite été tapé sur Google, j'avoue. On nous dit que certaines fleurs de rhubarbe sont comestibles. Info ou intox ?
Alors,
prudence.
Prudence, parce que en fait, dans la rhubarbe, il y a un acide qui est assez fort. Et puis, moi, j'éviterais de consommer les fleurs de rhubarbe parce que cet acide peut être assez fort. Et moi, j'utilise, je consomme que les côtes dans la rhubarbe parce que les feuilles, elles sont encore plus toxiques que les côtes. Mais j'aurais tendance à éviter ce genre de choses-là. Je ne l'ai jamais vu, jamais fait. Donc voilà.
Merci Tom. On va poursuivre avec les questions. Raphaël, si vous le voulez bien.
Oui, bien sûr. L'année dernière, les corneilles se sont régalées avec nos cerises. Comment faire pour protéger nos arbres ? Avec une petite précision, ils sont très hauts, ces arbres.
Alors, j'allais dire qu'il fallait mettre des filets, mais
mais comme ils sont très hauts, ils font un hélicoptère, l'hélicoptère qu'il y avait tout à l'heure.
L'hélicoptère pour éviter la grêle, on est d'accord. Non, ce qu'on peut faire, c'est essayer de mettre des CD dans les branches, les plus basses.
Ça marche vraiment.
Eh ben, ça fait des mouvements en fait avec le vent de lumière qui peuvent laisser penser à une présence humaine, donc ce qui peut être effrayer les oiseaux. Ce qui peut être aussi fait, c'est pourquoi pas essayer de faire un atelier épouvantail avec des enfants. Peut-être que ça peut fonctionner, mais dans les arbres assez hauts, peut-être commencer déjà En ce moment-là, jusqu'au même au début des récoltes, vous pouvez le faire. C'est commencer à rabattre légèrement les branches les plus hautes pour créer un arbre un petit peu plus compact pour les années suivantes, pouvoir mettre des filets de protection. Et puis, si on n'y arrive pas, ne pas hésiter, il y a des cordistes qu'on appelle ça, c'est des cordistes ou des grimpeurs qui peuvent faire ce genre de tâches-là pour vous, pour éviter d'escalader un petit peu de manière équilibriste sur des escabeaux, sur des échelles, pour ne pas tomber et puis pas vous blesser.
Merci Tom. Raphaël, entre-temps, vous avez une personne au téléphone.
Exactement, Janine a composé le 0970-2020, elle est avec nous. Et bonjour Janine.
Bonjour.
Votre question pour Tom.
Eh bien écoutez, j'ai fait une petite plantation d'asperges pour la quatrième année. Et puis je pense avoir fait une bonne petite récolte cette année pour un début. Mais j'aimerais savoir qu'elles soient apportées pour la suite. Est-ce qu'il faut... Bon, il faut laisser pousser maintenant. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il faut mettre des engrais ou je ne sais pas. Je pose la question.
Alors, les asperges, de toute façon, elles apprécient un sol assez riche, donc riche plutôt en compost, mais aussi bien drainant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter à leurs pieds quelques pelletées de compost, mais si le terrain n'est pas assez drainant, on peut aussi rajouter un petit peu de sable avec ce compost. Et puis là, on va, comme vous l'avez dit, bien les laisser pousser, un peu comme la rhubarbe dont on parlait avant, pour qu'elles emmagasinent un maximum de force, d'énergie pour repousser au printemps, parce que tous ces vivaces, elles ont besoin d'avoir le pied le plus vigoureux possible pour repartir. Donc, mettre un petit peu de compost, ça pose pas, c'est même bon. Et puis, moi, j'éviterai dans ce genre de plantes-là des engrais liquides ou des compléments d'engrais parce que les racines sont assez profondes dans la terre. Donc, voilà ce qu'on peut faire.
Ouais, justement, lors de la plantation, j'ai mis passablement de ça pour drainer. Parce qu'on a une terre assez lourde.
C'est parfait.
Donc, ça se passe bien, mais bon, engrais, j'en ai jamais mis. Alors, j'espère, je me demande pour la suite s'il faut faire ou pas.
Alors, un peu de compost.
Il faut laisser faire la nature, quoi.
Alors, un petit peu de compost, et puis c'est parfait. Et puis, laisser les pousser seulement, ça peut venir quand même jusqu'à un mètre et demi de hauteur. Certaines asperges sont cultivées de façon assez naine dans nos plantes d'intérieur. Donc, voilà.
Ouais. Puis, merci beaucoup.
On parlait des orages avant. On parlait des orages avant, peut-être. Si ça vient trop haut, vous pouvez ne pas hésiter à les tutorer un tout petit peu pour éviter qu'elles ne se couchent avec les orages comme il y a eu chez moi dans mon jardin.
Ah ouais, d'accord.
Merci beaucoup Janine pour votre appel en tout cas.
Bon week-end.
Une belle journée, bon week-end.
Tom, en première partie d'émission, nous avons parlé intempéries, les dégâts que subissent nos jardins, la grêle, tout ça. Avant de se quitter, on va déjà revenir sur la rhubarbe parce que nous avons reçu un WhatsApp d'une personne qui nous demande est-ce qu'on peut encore consommer la rhubarbe parce que vous nous aviez dit, vous la consommez jusqu'au 21 juin, je me rappelle. Et est-ce qu'on peut encore consommer cette rhubarbe?
Alors, moi, j'ai tendance à dire que non, parce qu'elle devient fibreuse, elle devient plus tellement tendre, ce qu'on apprécie dans la rhubarbe. Et puis, le fameux acide qu'il y a dedans la rhubarbe, je crois que c'est l'acide lactique, mais je ne vais pas dire de bêtises, il devient plus présent et c'est vraiment plus bon à consommer. Et puis voilà, on lui met un petit peu de compost au pied et puis on lui souhaite un bel été.
Voilà, donc on ne mange plus trop la rhubarbe à partir de fin juin. Ce sera le conseil santé pour Corinne qui nous a posé cette question. Et du coup, ça nous permettait de revenir un petit peu sur cette rhubarbe. Tom, dites-nous, vous faites quoi au programme ce week-end au jardin?
On va profiter que la terre, comme il a plu, il y a des orages, la terre est assez meuble, donc on peut désherber facilement, les plantes s'arrachent très facilement jusqu'à la pointe des racines. Ça enlève un petit peu beaucoup de terre, mais on tape un petit peu sur les chaussures ou sur le coin du potager et on a un beau désherbage. Comme je le disais en tout début d'émission, on continue à faire des semis pour étaler les récoltes, hein, pas avoir des kilos et des kilos de haricots par exemple, parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Ce qu'on peut faire aussi, si on a une serre, un tunnel ou ce genre de petites choses là, comme il risque de faire très chaud cet été, on n'hésite pas à prendre un petit peu de peinture, mais de chaud, pour aller un petit peu passer sur nos vitres. Ça va pouvoir, avec au fur et à mesure des arrosages et puis de la pluie, partir sur nos vitres. Et puis, on n'hésite pas non plus à regarder, inspecter, regarder s'il y a des pucerons, regarder s'il y a des maladies comme de l'oïdium, du mildiou sur nos plantes, et à traiter en conséquence pour avoir un beau jardin cet été.
Merci beaucoup Tom. On rappelle que vous êtes chroniqueur, blogueur, auteur du livre Un potager au naturel qui est paru chez Albin Michel et qu'on peut également retrouver vos conseils sur votre site tomlejardinier.com. On vous retrouve à la rentrée car c'est bientôt les vacances. Bel été à vous.
Ben, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent et puis à vos petits messages que je reçois généralement après les émissions quand vous me croisez dans la rue. Donc merci beaucoup à tout le monde de nous écouter.
Merci beaucoup Tom. Les jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy. Et puis ça sera la DER avant les grandes vacances. Donc vos questions, n'oubliez pas de les poser parce qu'après...
Ce sera trop tard.
Voilà, ce sera trop tard.
On va attendre septembre et ouais. Ça peut être long.
Oui, et ça sera peut-être trop tard pour répondre aux questions de début juillet en septembre. Non, on revient en août. Après.
Oui, fin août. Oui, on revient en août. Oui.
Bon, voilà. Bon
vous
week-end.
Vous allez partir 6 mois en vacances.
Ouais, vous avez besoin de vacances. Allez, bon week-end Raphaël. Bon week-end à toutes et à tous. Et puis, belles vacances. Prenez soin de vous.
7h, 8h. Les jardinières.